Voilà, j'aimerais nous inviter à la prière avant d'ouvrir la parole de notre Dieu. Nous te remercions, notre Seigneur, pour ce temps de louange. Oui, nous l'avons fait avec joie, puisque c'est toi qui nous as richement bénis en la personne de Jésus-Christ. Tu as fait de nous tes enfants. Tu as mis en nous ton esprit qui nous conduit dans la vérité, ton esprit qui est le gage de notre héritage, ton esprit qui nous soutient et qui nous guide. Merci notre Dieu pour ta parole qui est la vérité et nous te prions de nous instruire encore ce matin. Nous te remettons les enfants qui sont montés avec les monitrices que tu dispose leur cœur aussi à l'écoute de ta parole et que tu mettes dans la bouche des monitrices les paroles adaptées pour ces enfants. Et nous te demandons que ce qui est semé dans leur cœur puisse porter du fruit. Nous te prions aussi pour nous, pour ceux que tu sèmeras aussi, que cela puisse porter du fruit de la même manière. Donc, sois glorifié en toutes choses, au nom du Seigneur Jésus, nous prions. Amen. Alors, j'aimerais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, aujourd'hui nous lisons les 14 premiers versets. Et par la grâce de Dieu, je vais parcourir avec vous cet épître et puis voir ensemble ce que le Seigneur nous apprend dans cette lettre. L'apôtre Paul a écrit cette lettre aux Éphésiens dans les années 60-62, alors qu'il était en prison. Il avait rencontré des personnes à Éphèse lors de son troisième voyage missionnaire. Il est resté quelques années avec ces personnes. Il a enseigné la parole de Dieu et ces personnes sont devenues des chrétiens. Et cette église d'Éphèse a eu une évolution comme toute église, comme celle de Savigny aussi. Voilà, c'est comme ça. Après il y a eu Timothée qui a fait un travail pastoral dans cette église et nous voyons aussi il est parlé de cette église d'Éphèse dans l'Apocalypse où le Seigneur reprend cette église parce que il dit qu'elle a perdu son premier amour. Cette lettre parle du mystère de l'Église de Jésus-Christ, dans laquelle juifs et non-juifs qui mettent donc leur foi en Jésus-Christ forment un seul peuple, héritier de Dieu, et participent à la même promesse. L'Église, dans cette lettre, est présentée comme étant le corps de Christ, et Jésus-Christ étant lui-même le chef suprême de l'Église. Alors, Dans les commentaires, beaucoup disent qu'on peut couper ce livre en deux avec une première partie, les trois premiers chapitres où l'Église est présentée, l'Église qui a été prédestinée par Dieu et où l'apôtre Paul explique le plan de Dieu pour que, qu'on soit juif ou non juif, qu'on forme un seul peuple et pour sa gloire. Et puis, dans les trois derniers chapitres, chapitres 4 à 6, il y a beaucoup des applications par rapport à ce qui a été dit dans les premiers chapitres sur l'importance de l'unité dans l'Église, le renouveau dans la vie. Quand on est chrétien, on ne peut plus marcher comme on vivait avant. Il parle de l'armure du chrétien, comment lutter. Et que nos luttes ne sont pas charnelles, mais aussi spirituelles. Alors, je lisais dans un commentaire quelqu'un qui disait qu'aujourd'hui encore, l'épître aux Éphésiens est le plus actuel des livres bibliques. car elle nous parle de fraternité dans un monde désuni. Elle nous parle de réconciliation dans une société aliénée et de paix à des hommes en conflit. Donc vous voyez que, oui, c'est un livre qui est d'actualité, mais comme la parole de Dieu est toujours et restera toujours d'actualité. Et donc, cette citation me fait écho, bien sûr, à ce qui se passe là, en Ukraine, avec la guerre, et ce qu'on on voit là, des uns et des autres, on voit qu'on a besoin de ce que le Seigneur apporte là. On a besoin de fraternité, on a besoin de réconciliation, on a besoin de paix, et c'est ce que le Seigneur apporte. Alors j'aimerais que nous lisions ensemble ces 14 premiers versets de cet épître de Paul aux Éphésiens. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Nous rendons grâce à notre Dieu pour sa parole. L'apôtre Paul se présente, comme il fait habituellement dans ses lettres, dans ses premiers versets. Il se présente comme étant l'apôtre de Jésus-Christ, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Et il affirme qu'il est apôtre au même titre que les 12 autres que le Seigneur Jésus-Christ a choisi pendant son ministère, au tout début de son ministère. Ça, on le voit dans Luc chapitre 6, par exemple. Parmi tous les disciples qu'il avait, le Seigneur Jésus-Christ a choisi 12 et il les a appelés apôtres, ce qui signifie envoyé. Il a choisi donc aussi l'apôtre Paul. Et dans les Actes des Apôtres, au chapitre 9, il est raconté comment l'apôtre Paul, alors qu'il s'appelait Saul, il persécutait les chrétiens, croyant qu'ils étaient dans une secte. Il était en route sur le chemin de Damas, et le Seigneur s'est révélé à lui, et il lui a dit: « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Qui es-tu, Seigneur ? Je suis Jésus que tu persécutes. » Et l'apôtre Paul, là, a dit tout de suite: « Mais que veux-tu que je fasse ?» Après, le Seigneur va envoyer l'un de ses serviteurs, et il va dire à Ananias, qui avait des craintes à cause de l'apôtre Paul, il va lui dire « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Donc oui, il dit à Ananias « Cet homme est un instrument que j'ai choisi. » Il est apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Et dans plusieurs de ses lettres, l'apôtre Paul défend son titre d'apôtre à cause de ses faux docteurs qui l'accusaient de ne pas être comme les autres, qui n'étaient pas apôtres. Et là, l'apôtre Paul, à plusieurs reprises, a dû défendre ce titre. Il a dit aux Galates, « Celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, donc des Juifs, a fait aussi de moi l'apôtre des païens. » Dans Galates chapitre 2, verset 8. Il s'adresse aux chrétiens qui habitaient cette ville, Éphèse. Alors, d'autres pensent aussi à la Odyssée, c'était peut-être une lettre circulaire. Et il dit de ces chrétiens, ils sont appelés saints et fidèles en Jésus-Christ. Aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Les chrétiens sont appelés saints parce qu'ils ont été mis à part pour appartenir et servir le Dieu vivant et vrai. Donc, et Dieu nous sanctifie et nous met à part pour le servir. Et donc, lorsqu'on se tourne vers Jésus-Christ, on est déclaré saint par Dieu. Ce n'est pas un titre qui est réservé à quelques-uns, quelques élites spirituelles, non, pas du tout. Et ce qu'il veut aussi que nous comprenions, c'est que puisque nous sommes saints, c'est que Dieu nous a sauvés pour que nous soyons saints, et il attend de nous que nous ayons une vie sainte. Mais aussi, il dit qu'ils sont fidèles en Jésus-Christ. Alors, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, l'apôtre Paul utilise pour la première fois dans cette lettre cette expression « en Jésus-Christ » qui va revenir, et même dans le passage que nous avons lu, va revenir quasiment systématiquement, en Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que ça signifie être en Jésus-Christ? Déjà, pour être en Jésus-Christ, il faut entendre la parole de la vérité. Et le verset 13 le dit, il dit que « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous aussi, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Pour être en Jésus-Christ, il faut entendre la parole de la vérité. La parole de la vérité, c'est cet évangile qui est là proclamé et qui est annoncé. Cet évangile qui nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique et qu'en croyant en Jésus-Christ, on a la vie éternelle. Et l'apôtre Paul, pendant il sera à Éphèse, il va leur annoncer, pendant ce troisième voyage missionnaire, il va leur annoncer la parole. Dans Actes chapitre 19, il est dit que pendant 2 ans, il sera dans une école, il va enseigner la parole, et juifs et grecs, que ce soit juifs ou grecs, ils vont entendre la parole du Seigneur, c'est ce qu'il dit dans Actes chapitre 19, verset 10. Et les chrétiens d'Éphèse ont reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, après avoir écouté donc la prédication de la foi. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit aussi aux Galates, que c'est suite à l'écoute de la prédication de la foi qu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Dans Romains chapitre 10, versets 13 à 15, il dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Et il ajoute « Mais comment évoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Donc là, on voit tout le processus. Pour qu'il y ait des personnes qui invoquent le nom du Seigneur, il faut qu'il soit envoyé, il faut qu'il y ait des personnes qui soient envoyées, il faut qu'il y ait des personnes qui prêchent la parole de Dieu pour que des personnes entendent cet évangile et que Dieu suscite la foi dans le cœur de ces personnes. Donc, pour être en Jésus-Christ, ces fidèles d'Éphèse et à la place d'Éphèse, on peut mettre à Savigny, on peut mettre la ville d'où on est. Pour être en Jésus-Christ comme ces chrétiens à Éphèse, il fallait déjà qu'ils entendent l'évangile. Mais ce n'est pas tout d'entendre l'évangile, il faut aussi croire en ce que dit l'évangile, croire en Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il dit dans ce verset 13, « Et en lui, vous avez cru ». Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Croire en Jésus, c'est reconnaître son état d'homme pécheur devant Dieu et placer sa confiance en Christ. La Bible dit clairement que tous les hommes sont des pécheurs et tous sont privés de la gloire de Dieu dans Romains chapitre 3, verset 23. L'apôtre Paul disait aussi avant que tous sont sous l'empire du péché. Il n'y a point de juste, il n'y a pas même un seul qui fasse le bien. Il dit que tous sont égarés, tous sont pervertis et qu'il n'y en a pas même un seul qui fasse le bien dans les versets 9 à 12. Donc croire en Jésus, c'est reconnaître sa culpabilité aussi devant Dieu, dire comme Pierre, lorsque le Seigneur lui l'a dit, suis-moi, il a dit, mais retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. Pierre, il a reconnu qu'il n'était pas digne de suivre le Seigneur, et le Seigneur a dit, je ferai de toi un pécheur d'homme. Oui, donc, il ne suffit pas de dire, oui, on est meilleur qu'un autre, etc. Ou dernièrement, je discutais avec une personne, dit, oui, je fais du bien autour de moi, donc je n'ai pas besoin, en regardant le ciel, j'ai pas besoin de croire en Dieu parce que je fais le bien autour de moi. Mais ce que la Bible dit, c'est que dès que vous venez au monde, vous êtes pécheur et que vous allez en enfer si vous ne croyez pas en Jésus-Christ. Donc, croire en Jésus, c'est reconnaître que nous sommes des malades spirituels, cette maladie incurable qu'est le péché. Et dès qu'on vient au monde, on a cette maladie en nous qui est le péché et que cette maladie mène à la mort. Et reconnaître que Jésus est le seul qui puisse nous sauver, qui puisse nous guérir. Une personne a cité cela là ce matin dans Matthieu chapitre 9. Il dit que ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins. Il y a les pharisiens qui étaient là qui reprenaient Jésus disant mais qu'est-ce qu'il fait à être avec les gens de mauvaise vie? Et le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour ceux qui sont malades, ceux qui reconnaissent leur maladie et qui ont besoin de médecins. Et tous ceux qui étaient là ont reconnu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Et Matthieu qui était ce péager a reconnu aussi qu'il avait besoin de Jésus-Christ. Pour être en Jésus-Christ, il faut donc entendre l'évangile. Et lorsque vous venez à l'église, vous l'entendez, cet évangile. Lorsque vous ouvrez la parole de Dieu, vous lisez, vous entendez cet évangile. Mais il faut aussi qu'il y ait cet acte de foi, de mettre donc sa foi en Jésus-Christ. Et il y a aussi une autre chose que j'aimerais ajouter, c'est qu'il faut aussi confesser publiquement de sa foi. C'est ce que dit Romains chapitre 10. Puisque là, l'apôtre Paul, il dit aux saints qui sont à Éphèse. Donc, il pouvait identifier ces chrétiens, ces personnes qui avaient mis leur foi en Jésus. Ceux qui étaient à Éphèse, Il s'adresse pas à toute la ville d'Éphèse, il s'adresse à ceux et celles qui ont mis leur foi en Jésus. Donc, il pouvait les identifier, et s'il pouvait les identifier, c'est parce que ces personnes, un jour, à un moment donné de leur vie, ont dit, j'ai mis ma foi en Jésus, je crois que Jésus est le Fils de Dieu, je crois que c'est pour moi qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Et donc, et Romains chapitre 10 dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en, il dit, en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Dans Actes chapitre 2, il dit que ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Donc, ils pouvaient compter le nombre de disciples. Donc, on pouvait les identifier. Donc, lorsqu'on croit en Jésus, on ne le garde pas pour soi. On le confesse et on va trouver une église. On va dire, oui, je crois en Jésus-Christ. Et puis, et c'est ce qu'on va voir dans Éphésiens, c'est que le Seigneur nous intègre. Lorsqu'on met sa foi en Jésus, le Seigneur nous intègre dans son Église, dans son corps. Alors, donc, il utilise cette expression « être en Jésus-Christ ». Que signifie « être en Jésus-Christ » ? Être en Christ, c'est être uni à Jésus-Christ. C'est lui la source qui nous donne la vie et dont nous avons besoin pour vivre. Et le Seigneur a expliqué cette vérité à ses disciples lorsqu'il leur dit « Je suis le cep et vous, vous êtes les sarments. Et celui qui demeure en moi et en qui je demeure, il porte beaucoup de fruits parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, être en Christ, c'est être comme ce sarment qui est attaché au cep. Si le sarment n'est pas attaché au cep, s'il ne demeure pas attaché au cep, eh bien, il meurt. L'autre expression qui est utilisée, c'est l'image du corps. L'apôtre Paul il dit que Jésus-Christ est la tête et l'Église, c'est son corps. Et que chaque personne est un membre de ce corps-là. Et si on n'est pas dans le corps, ce membre ne sert à rien. Il meurt. Et donc, il faut être dans ce corps-là et vivre dans ce corps-là. Pour être utile. Vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, et chacun pour sa part, il nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27. Être en Jésus-Christ, c'est être uni, attaché à lui, mais c'est aussi, ça se voit aussi dans le fait d'être attaché, être partie intégrante de son corps. Et le membre a une utilité, tout comme le sarment qui porte du fruit. Si le sarment ne porte pas de fruit, le sarment ne sert à rien. Et ça, c'est très important parce que l'apôtre Paul insiste sur cette réalité d'être en Jésus-Christ. Lorsqu'une personne met sa confiance dans le Seigneur pour son salut, cette personne est automatiquement scellé du Saint-Esprit. Il est dit donc dans les versets 13 à 14. Cette personne donc reçoit le Saint-Esprit de Dieu dans son cœur. Et c'est le Saint-Esprit donc qui nous intègre dans le corps de Christ, qui fait de nous membres du corps de Christ. Et dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, l'expression qui est utilisée, être baptisé du Saint-Esprit. Il dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc, lorsqu'on entend l'évangile, lorsqu'on met sa foi dans la parole, le Seigneur nous scelle de son esprit. Le sceau de Dieu, c'est l'acte par lequel il montre que nous lui appartenons, nous sommes sous sa protection et que c'est le gage, il est dit aussi, de notre héritage. Donc, La vie éternelle, il nous dit, vous l'avez et vous ne pouvez pas le perdre. La présence du Saint-Esprit en nous, le jour de notre conversion, est le signe de notre appartenance à Dieu et de l'assurance de notre salut. Alors, ce texte nous parle donc de cette réalité en Christ. Et à cause de tout cela, l'apôtre Paul bénit Dieu. Il loue le Seigneur à cause de tout ce que Dieu a imaginé, a fait pour son Église. Et tout cela, il dit que c'est en Jésus-Christ que nous l'avons. Et donc, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, ce que je vais dire là, vous dire, ben, ça ne me concerne pas. Mais pour nous qui avons donné notre vie à Jésus-Christ, l'apôtre Paul souligne toutes les bénédictions que nous avons en lui. Et si vous n'avez pas encore mis votre foi en Jésus-Christ, alors vous saurez toutes les bénédictions que Dieu a en vue pour celui qui met sa confiance en la personne de Jésus-Christ. Donc, il dit, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Donc, dans sa souveraineté, Dieu nous a bénis. Il nous a bénis, il est dit, de toute bénédiction spirituelle. Dieu nous a élus, il est dit au verset 4, avant même la fondation du monde, il nous connaissait déjà avant même qu'on soit né, avant même la fondation du monde, il nous avait déjà choisi. L'autre chose aussi qui est soulignée, c'est que le Seigneur nous a racheté. Il est dit, il a fait de nous ses enfants par adoption. Verset 5, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Donc, lorsqu'on se tourne vers Jésus-Christ, on accepte Christ, le Seigneur nous accueille dans sa famille aussi. Nous sommes adoptés et nous devenons héritiers de Dieu aussi de la même manière. En Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang et le pardon des péchés. Et lorsque nous prenons la Sainte Cène, nous nous souvenons de ce que Jésus-Christ a enduré à cause de nos péchés. Et si nous avons la rédemption, donc le fait d'avoir été racheté par son sang, si nous avons le pardon des péchés, c'est parce que Jésus-Christ a donné sa vie. Il a payé le prix à notre place. Et là, c'est une grâce, c'est une bénédiction aussi de Dieu. Il dit, nous sommes devenus héritiers de Dieu, mais aussi donc co-héritiers de Jésus-Christ. Et tout cela, il dit que c'est pour que nous puissions célébrer la gloire de Dieu. Si Dieu nous a sauvés, c'est pour une chose, pour célébrer sa gloire. Il nous a donné son esprit. Il est dit, verset 13 à 14, il nous a scellés. C'est le gage de notre héritage. Tout cela pour célébrer sa gloire. C'est là le sens de notre vie. Célébrer la gloire de Dieu. Et il n'y a aucun mérite. Et dans ce passage, nous avons à la fois la souveraineté de Dieu qui choisit qui il veut avant la fondation du monde, et il y a aussi la responsabilité de chacun qui entend l'évangile, qui croit en l'évangile et qui peut être sauvé. Donc celui ou celle qui place sa confiance en Jésus est béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, il est dit. Et dans sa souveraineté, Dieu nous choisit et fait de nous ses enfants par adoption. Nous recevons le pardon de nos péchés. Nous devenons donc enfants de Dieu par adoption et donc héritiers de Dieu. Nous avons son esprit qui est là, qui est l'accomplissement de la promesse que Dieu avait faite aux prophètes du temps passé, mais aussi la présence du Saint-Esprit, c'est le gage de notre héritage. C'est déjà un acompte que Dieu nous donne qui est là et en attendant l'accomplissement et la pleine possession des choses à venir. Donc oui, frères et sœurs, nous pouvons bénir notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est aussi notre Père. Et par la suite, nous allons voir que nous avons l'accès auprès du Père, nous pouvons venir à lui. Pourquoi? Parce qu'il a pardonné nos péchés et que nous sommes ses enfants. Alors, Dieu nous a sauvés pour une chose, c'est pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Si Dieu nous a sauvés, c'est pas pour que nous vivions notre vie comme bon nous semble. S'il nous a sauvés, c'est pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Et donc, dans cette lettre, l'apôtre Paul va expliquer toutes ces vérités. C'est quoi être chrétien et comment vivre en tant que chrétien pour la gloire de Dieu. Parce que c'est pour la seule chose, la seule raison pour laquelle Dieu nous a sauvés, il est dit que c'est pour célébrer sa gloire. Donc que le Seigneur nous bénisse. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle en Christ. La question c'est, est-ce que vous êtes en Christ, chers amis? Vous qui nous visitez peut-être pour la première fois, est-ce que vous êtes en Christ? Est-ce que vous êtes unis à Jésus-Christ? Avez-vous l'Esprit de Dieu en vous? Et le texte nous dit que c'est après avoir entendu l'Évangile, après avoir mis votre confiance en la parole qui dit que c'est Jésus-Christ qui est le seul moyen de salut, alors c'est comme cela que vous pouvez avoir l'Esprit de Dieu et être appelé enfant de Dieu. Donc nous voulons encore une fois bénir notre Seigneur. Oui, grand Dieu, nous te bénissons. Nous voulons chanter ce chant à la gloire de notre Seigneur et nous voulons vous dire que pour être béni de toutes ces bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, à vous de mettre aussi votre confiance dans le Seigneur. Et pour nous qui l'avons déjà fait, le Seigneur nous dit, s'il nous a sauvés, c'est pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen.